Sœurs, vous allez bien? Joyeuse Pâques! Jésus-Christ est ressuscité, ça c'est notre grande joie. Hein? Vous rendez compte, hein? Les gens parlent d'œufs au chocolat, de poules. Non mais comment ils ont fait pour en arriver là, c'est curieux. On va lire Daniel 12, 2, 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. C'est la vérité. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Notre grande joie, c'est d'annoncer encore aujourd'hui, au 21e siècle, que Jésus-Christ est ressuscité. Paul dit, et je dis, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. C'est vrai, mes pauvres frères et sœurs. S'il n'est pas ressuscité, on a tout faux, mais complètement tout faux. Alors, Daniel, vous savez, la révélation de la résurrection des morts, elle est venue tardivement. Il a fallu attendre 200 ans avant Jésus-Christ pour que Dieu donne ça à un de ses prophètes, Daniel. Daniel est le premier prophète à avoir clarifié l'idée, la chose de la résurrection. Il a parlé au nom du Tout-Puissant, il a clarifié cette grande vérité. Il y a une résurrection d'entre les morts. Les gens pensaient bien qu'il y avait une résurrection d'entre les morts, puisque Dieu est le Dieu de la justice, enfin voilà, ils avaient échafaudé un peu des idées, mais il n'y avait pas un texte vraiment qui le disait. Maintenant, dans l'Ancien Testament, il y a enfin 200 ans, deux siècles avant Jésus-Christ, un texte qui le dit. Ah, c'est formidable. Le mot résurrection vient du latin resurgere. Et ce mot, il signifie se relever. Par exemple, si Titi court dans l'allée et trébuche, s'il se relève, eh ben, il ressuscite. C'est rigolo, hein? Vous saviez ça? Ben c'est comme ça. Quand on dit que Jésus-Christ est ressuscité, ça signifie qu'il s'est relevé. Mais il s'est relevé de quoi? De où? C'est ça la chose. Il était mort, couché dans sa tombe, et il s'est relevé d'entre les morts. C'est ça. La résurrection, c'est Jésus qui s'est relevé d'entre les morts. C'est ça que ça signifie. Il s'est relevé d'entre les morts. La mort n'a pas pu le garder. Il a déjà vaincu la mort en cela. Et elle ne nous gardera pas non plus. Alléluia! Parce qu'il a vaincu la mort. Nous nous relèverons d'entre les morts. Bon, quand je dis qu'il a vaincu la mort, pas encore tout à fait, parce qu'elle peut encore agir un peu. Elle a son action encore. Beaucoup de gens meurent. Mais elle est sous contrôle, complet, total. Même il a les clés du séjour de la mort. Il les a piquées au passage. Et nous, nous serons encore nous quand nous ressusciterons. Nous ne serons pas une autre personne, ça ne sera pas une réincarnation dans un autre corps, ça sera bel et bien nous. Dieu a révélé la doctrine donc de la résurrection, il l'a officialisée là par le prophète Daniel, et les vrais juifs, les vrais croyants, depuis toujours, ils croyaient, mais ils n'avaient pas d'écrit qui certifiait cela. Les peuples de la région du Moyen-Orient, ils croyaient en Baal, ils croyaient en Tammuz, ils croyaient en Osiris, ils croyaient en toutes sortes de dieux. Et l'histoire de ces dieux, c'était que régulièrement, cycliquement, ils passaient par la mort et par la, écoutez bien, revivification. C'est pour ça que ça se faisait toujours au printemps, parce que c'était le printemps, c'était le type de la revivification. Rien à voir avec la résurrection. Une renaissance, si vous voulez. Samuel avait dit, l'Éternel, ça fait longtemps avant, hein, Samuel avait dit, l'Éternel fait mourir, il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. 1 Samuel 2, 6, c'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait. Puis Jésus est venu et il a relevé des morts. Il a commencé à relever des morts. Le fils de la veuve, vous vous rappelez? La fille de Jaïrus, Lazare, le plus célèbre, et les gens ont pu voir ça. C'était visible quand elle lit avait ressuscité un garçon. Ça s'était passé dans une chambre. En fait, il y avait que la mère qui le savait. Mais là, c'était des multitudes qui savaient qu'il y avait des résurrections. Il y avait beaucoup de témoins. Et puis Jésus a été arrêté, il était jugé, il était condamné à mort, il était crucifié. Et on l'a mis dans une tombe. J'ai vu cette tombe, je suis entré dans cette tombe. Je suis sorti là aussi, on ne peut pas rester, hein. Et il s'est montré à des centaines de personnes en son temps. Plusieurs de ces personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu ressuscité. Ils ont été torturés, ces gens-là. Ils ont été mis à mort parce que le gouvernement d'alors voulait qu'ils disent que non, finalement, ils avaient menti, qu'ils avaient donné un faux témoignage, que Christ n'était pas ressuscité. En fait, ils avaient voulu monter une religion là-dessus, mais que c'était faux. Et ils ont été arrêtés, ces gens-là, ces témoins, ils ont été torturés, il y en a qui ont été mis à mort. Ces gens-là sont morts plutôt que nier que Jésus-Christ est ressuscité. Ce sont des faits historiques. C'est pas parce que c'est écrit dans la Bible. C'est les historiens d'alors qui ont écrit ces choses-là. Et aujourd'hui, ceux qui se moquent de nous, ceux qui ne croient pas dans la résurrection, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est ressuscité, eh bien, ils insultent ces martyrs et en fait, ils sont autant, comment dire, insultants que les négationnistes, ceux qui nient qu'il y a eu des morts dans les camps de concentration. Parce que c'est un fait historique. Quand on nie un fait historique comme cela, c'est une insulte à la mémoire des morts, c'est grave. Les martyrs du 1er siècle qui sont morts parce qu'ils ne voulaient pas renier Jésus-Christ crucifié et ressuscité sont des martyrs historiques. Il y a des livres qui ont été écrits. Ces faits ont été écrits par des historiens non-croyants. Parce qu'on pourrait dire, oui, j'ai encore des croyants qui ont écrit ça. Non. Il faut que vous vous y pensiez avant de vous moquer de la foi des chrétiens qui croient que Jésus-Christ est ressuscité. Parce que beaucoup de gens sont choqués du fait qu'il y ait des négationnistes au sujet des morts de la dernière guerre, mais personne n'est choqué parce qu'on nie que Jésus-Christ est ressuscité. C'est curieux quand même, hein? Jésus-Christ est ressuscité, et s'il n'est pas ressuscité, Paul dit « Nous sommes les plus malheureux des hommes ». On va lire ce texte. C'est un long texte, mais on va le lire ce matin. Se trouve dans 1 Corinthiens 15-12. Je lis. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. » Vous êtes sauvés par cette bonne nouvelle, parce que vous connaissez cette bonne nouvelle. Vous êtes sauvés si vous le retenez, si vous retenez cette bonne nouvelle dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Terrible, hein? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Parce qu'il y avait des Écritures, les prophètes autrefois avaient parlé au sujet de cette mort. Et l'apôtre dit, voilà, c'est selon les Écritures. Jésus est mort selon les Écritures, ce n'était pas un accident. Il a été enseveli. Et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Les prophètes l'avaient dit avant. On trouve ça dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Et qu'il est apparu à Cephas, c'est-à-dire au roi Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Moi, je vous dirais encore que la première personne à qui il est apparu, c'est une femme, c'est Marie. Et il est apparu peut-être à 500 frères à la fois, mais il y avait aussi beaucoup de sœurs. Voilà, mais ça, c'était à l'époque, ils étaient un peu machos, un peu des gitans. Hein. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et par sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Vous voyez, à Corinthe, dans l'église de Corinthe, il y avait des nouilles, il y en a partout. Pas chez nous, il n'y en a pas. C'est bien. Comment se fait-il que parmi vous, il y en a qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans l'église si Christ n'est pas ressuscité? À quoi ça sert? Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Alors pourquoi vous restez dans l'église si vous ne croyez pas? C'est la base, c'est la chose la plus importante. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il l'a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Si les morts ne ressuscitent pas, je suis un faux témoin. Et vous êtes en train d'écouter un faux témoin. Ma prédication est vaine et votre foi est vaine. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Il se trouve même que nous sommes donc des faux témoins. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ, ils sont perdus. Il est en train de dire ceux qui sont morts en Christ, ceux qui sont morts chrétiens, sont tous perdus. On est une bande d'idiots. On croit quelque chose de faux. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire pourquoi ? Pour la guérison, pour l'abondance matérielle, pour la protection et toutes ces choses-là. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun dans son rang, Christ comme prémisse, premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il mettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Il a vaincu la mort, mais il lui a laissé encore un pouvoir, mais elle sera réduite à l'impuissance totale. Dieu, en effet, a mis tout sous ses pieds, mais lorsqu'il dit qu'il lui a tout soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, c'est-à-dire, si tout ce que je vous dis là c'est faux, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? S'il n'y a pas de résurrection, si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Pourquoi on a passé hier du temps pour baptiser encore, se faire baptiser pour 1200 personnes décédées? Pourquoi on a fait ça? On a perdu notre temps, c'est une idiotie. Et nous, il dit Paul, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril, en danger? Chaque jour, il dit, je suis exposé à la mort. Hein, il y avait déjà des terroristes, ce n'était pas des terroristes musulmans, c'était d'autres terroristes, c'était des terroristes juifs en fait. C'était des fanatiques qui voulaient absolument le tuer. Chaque jour, je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Alors, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Et c'est les gens dehors avec leur lapin au chocolat qui ont raison. Voilà. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en tant que chrétiens sont tous perdus. Voilà. Vous connaissez des gens qui sont morts en tant que chrétiens? Eh bien, si Christ n'est pas ressuscité, ils sont tous perdus. Voilà. Maintenant, Paul affirme, Jésus-Christ est ressuscité, et il dit, il est les prémices de ceux qui sont morts, verset 20. Frères et sœurs, la mort est venue dans ce monde par un homme, Adam, parce qu'il a transgressé la loi de Dieu, la mort est rentrée dans le monde, et c'est aussi par un homme que la résurrection est venue, par Jésus. En cela, Paul dira plus tard, Jésus est le deuxième Adam. C'est une recréation, c'est une nouvelle création. Quand nous sommes en Jésus-Christ, quand nous sommes croyants, l'apôtre dit, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant c'est nouveau, nous sommes une nouvelle créature. Jésus est le second Adam, ce qui veut dire que la condamnation à mort est venue par Adam, mais la vie, la grâce, le pardon, cette nouvelle création est venue par Jésus. Et comme le dit le prophète Daniel, nous ressusciterons les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. Mais la honte de quoi? La honte de quoi? Eh bien, c'est quand ils arriveront et qu'ils verront que Jésus-Christ est véritablement Dieu, qu'il n'y en a pas trois, mais qu'il y en a un, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité dans son corps dans le temps où il était sur cette terre, ils seront honteux de ne pas avoir cru sur la terre que Jésus a donné sa vie en rançon pour tous. Ils seront honteux. Ils auront honte de ne pas avoir cru les envoyés de Dieu anciens qui ont écrit la Bible. Ils seront honteux d'avoir méprisé la mort des martyrs. Ils seront honteux d'avoir rejeté et ridiculisé les envoyés de Dieu modernes, les nouveaux, ceux d'aujourd'hui, qui enseignent la Bible et l'histoire. Ils seront honteux éternellement. Ça montre un peu le poids de gloire qu'a Jésus-Christ. Quand ils le verront, ça va être terrible de se rendre compte qu'ils se sont trompés. Vous voyez, des fois, on pense à la guerre, on dit, il y avait les collaborateurs. Mais je suis sûr que dans les collabos, il y avait des gens sincères. Ils sont trompés. Mais je suis sûr qu'il y en avait qui étaient sincères. Ils n'étaient pas méchants, bêtes peut-être, mais pas méchants. Ils se sont trompés. Ben voilà, il y en a maintenant aujourd'hui, ils se sont trompés. Ils ne croient pas la vérité. Daniel dit, ils auront honte éternelle. C'est terrible, ils ressusciteront pour une honte éternelle. Daniel dit que ceux qui sont intelligents brilleront comme la splendeur des cieux. C'est qui ces intelligents? C'est vous, mes frères et sœurs. Hier, je lisais un bouquin de Zemmour où il dit des tas de choses et il dit, et c'est moi qui vous le dis, moi l'idiot. Il est loin d'être idiot, hein. Mais nous aussi, on ne peut pas dire qu'on est des sages selon les critères, n'est-ce pas, de ce monde. On ne peut pas dire qu'on est des intelligents extraordinaires, formidables, le ciel. Non, vous avez des gens très brillants sur cette terre. Mais nous, les idiots, nous qui croyons que Jésus-Christ est ressuscité, c'est nous, selon Dieu, les intelligents. Parce que c'est ce qui est le principal, c'est de croire que Christ est ressuscité. Tout le reste, toute cette sagesse, toute cette connaissance, ça ne va pas vous sauver. C'est bien, vous pouvez faire du bien avec, mais ça ne va pas vous sauver. Ce qui est important, c'est de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. C'est ça les intelligents, ils brilleront comme la splendeur du ciel. Alors ne vous troublez pas, mes frères et sœurs, et laissez le monde accumuler ses injures contre Dieu. Soyez gentils, pardonnez-leur, soyez gentils, mais ne vous laissez pas faire. C'est vous qui avez raison, Jésus-Christ est ressuscité. Et s'il n'est pas ressuscité, s'il n'y a pas de résurrection, à quoi ça sert que nous passions des heures à nous faire baptiser pour les morts, à leur place? À quoi ça sert? Ils ne ressusciteront jamais, donc on est des idiots. Mais alors, on est les plus idiots parmi les idiots, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont baptisés pour les morts. L'apôtre Paul, il prend juste cet exemple-là, pour dire, voilà, mais vraiment, s'il n'y a pas de résurrection, nous sommes les plus malheureux des hommes. Puis, si vraiment Christ n'est pas ressuscité autrement, ben alors à quoi ça sert de faire tout ça? Parce que c'est vrai que c'est pénible de le faire. C'est notre frère Dominique, hier, j'ai demandé, tu passes combien d'heures par jour à faire ces listes, à récupérer toutes ces listes? Et c'est entre 2 et 4 heures par jour. Rien que pour mettre ça sur le logiciel de l'ordinateur. Ensuite, on passe des heures là-bas dans le baptistère. Philippe, hier, il est resté un peu plus d'une heure, dans ce baptistère. Des fois, on reste encore plus longtemps. C'est répétitif, c'est pas rigolo, c'est pas amusant, c'est pas une fête. Un baptême, normalement, c'est une fête, mais chez nous, là, c'est baptême pour les morts, c'est pas une fête, c'est quelque chose que nous faisons par pure obéissance, avec la foi que Dieu agrée ce que nous faisons, mais c'est pas rigolo. Alors, à quoi ça sert qu'on le fasse si Jésus-Christ n'est pas ressuscité? Voilà. Quand Paul disait ça aux gens de Corinthe, ils comprenaient très très bien ce que ça voulait dire, parce que aussi, quand c'était le moment d'aller faire le baptême pour les morts, ils disaient, oh là là, parce que c'est long! Parce que c'est long de faire toutes ces choses. Et pourquoi j'irai, dit Paul, pourquoi j'irai exposer ma vie? Et pourquoi moi j'irais exposer ma vie encore dans ces pays où il y a des extrémistes qui kidnappent et qui massacrent les chrétiens? Pourquoi? Pour quelle raison? Si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi risquer notre propre vie en allant prêcher l'évangile de Jésus-Christ dans ces pays-là où on risque de mourir? On est bien mieux chez nous. Non? On loue un bon film, puis voilà. Puis on mange et on boit, on s'amuse. Mes frères et sœurs, si les morts ne ressuscitent pas, comme il dit, hein, il dit « mangeons, buvons », ça veut dire « bon ben, pétons-nous la gueule, réjouissons-nous, voilà, amusons-nous, abusons de tous les plaisirs, naturels et contre nature, faisons tout ce qui nous passe par la tête, on s'en fout, il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de résurrection, ça veut dire qu'il n'y a pas de jugement à la fin, s'il n'y a pas de jugement à la fin, mais on s'en fout de péché, prenons du plaisir ». C'est ça qu'il est en train de dire l'apôtre Paul, je vous le dis un peu crûment pour que vous réalisiez un petit peu, c'est ça qu'il est en train de dire. Je dis que heureusement que la grande majorité des incroyants ne réfléchissent pas trop et donc restent calmes et ne font pas vraiment des grandes choses mal. Moi, je serais un païen, mais je ferais de très grandes choses mal pour gagner plein de pognon, pour pouvoir faire tout ce que je veux. Mais la plupart, non, ils sont juste tièdes, quoi. Je veux dire, c'est des païens, mais ils profitent même pas du fait qu'ils ne croient pas en Dieu pour vivre comme ils veulent. Ils vivent une vie médiocre. Pour nous, pas question d'être calme. Nous sommes des fanatiques du bien, des fanatiques du vrai, du fanatique du juste, et tout cela dans l'amour et le respect des autres. Amen. Voilà ce que nous sommes. On peut pas être des tièdes. Jésus dit qu'il faut que nous soyons froids ou bouillant, mais voici parce que vous êtes tiède, je vous vomirai de ma bouche. Faut être des bouillants. Et on l'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, on va jusqu'au bout. On fait tout ce qu'on peut. Mes frères et sœurs, heureusement que il y a eu des gens incrédules qui ont posé à Paul des questions, qui ont dit, mais il n'y a pas de résurrection, Paul, qu'est-ce que tu viens nous raconter? Parce que s'ils n'avaient pas exposé leur incrédulité, nous n'aurions aucun document qui nous prouve que le baptême pour les morts est biblique. C'est venu grâce à des incroyants. Merci les incroyants. Vous voyez, Dieu a travaillé notre mentalité pour que nous puissions comprendre que dans l'opposition, nous trouvons le moyen toujours de tirer du bien. Et l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a écrit tout cela parce qu'il y avait des oppositions. Eh bien, nous, nous trouvons le moyen d'aller de l'avant. Et merci Seigneur pour l'opposition et les opposants. Ça nous aide à aller de l'avant, ça ne nous freine pas, ça ne nous retient pas. Au contraire, ça nous conforte dans notre foi et nous en faisons encore davantage. Et c'est grâce à ces incroyants que nous avons cet écrit magistral de l'apôtre Paul, de son chapitre 15 sur la résurrection. Nous ne l'aurions pas s'il n'y avait pas eu ces nouilles qui ne croyaient pas dans la résurrection de Jésus dans l'Église même. Non, mais c'est infernal. Alléluia! Oui, Jésus-Christ est ressuscité et nous ressusciterons nous aussi. Quand Jésus est sorti de la tombe, Marie l'a reconnu, c'était bien lui. C'était pas une réincarnation dans un autre être. Il a voulu, elle a voulu, pardon, se précipiter sur lui pour le toucher, pour l'embrasser les pieds, je sais pas. Mais lui, il l'a gentiment retenu, il a dit non, ne me touche pas, parce que je suis pas encore monté vers le Père. Vous trouvez ça dans Jean 17, 20, 17. Il n'était pas encore monté vers son Père. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il était descendu pendant 3 jours et 3 nuits dans les régions inférieures de la terre. C'est-à-dire pas sur la terre, mais inférieure de la terre. Éphésiens 4, 9. C'est ça qu'il avait fait pendant 3 jours et 3 nuits, pendant que son corps était dans la tombe, son esprit est descendu là. Parce qu'il était mort d'une mort de pécheur. Il avait pris tous nos péchés, donc il n'est pas allé dans le sein d'Abraham. Son esprit est allé dans l'endroit où sont les pécheurs. Parce qu'il est mort pécheur. Il est descendu comme tous les pécheurs dans le séjour des morts, dans le mauvais côté du séjour des morts, dans les régions inférieures de la terre. Et qu'est-ce qu'il a fait là? Un acte rédempteur. Il a aussi profité de cela. Vous voyez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Quand vous vous trouvez dans des situations difficiles, plutôt que de vous plaindre et geindre, et faites encore la volonté de Dieu. Amen. Faites encore la volonté de Dieu. Témoignez encore. Faites des actes rédempteurs. Il a prêché la bonne nouvelle à une certaine catégorie de morts. Vous trouvez ça dans 1 Pierre 3, 18 à 20 et 1 Pierre 4, 6. Et il est ressorti de là en s'emparant des clés de cet endroit. Et il est remonté avec des morts qui avaient été captifs là depuis l'époque de Noé quand même. Hein. Il a vaincu sa propre mort. Il a vaincu la mort de ceux qui ont cru sa prédication qu'il avait faite là dans le séjour des morts. C'est fort. Il a prêché l'évangile, 1 Pierre 4, 6. Il est sorti du séjour des morts, des pécheurs, des morts pécheurs. Il est sorti de là en compagnie de tous ceux qui ont cru en lui, là, dans cet endroit. Et en sortant, il a arraché des mains de la mort les clés du séjour des morts. Gloire à Dieu! La mort n'a plus les clés, c'est Jésus qui a les clés, c'est-à-dire qu'il peut enfermer la mort quand il veut, il peut ouvrir pour n'importe quelle raison, il fait ce qu'il veut. Il a tout pouvoir dans tous les domaines, au ciel, sur la terre et sous la terre. N'est-ce pas écrit? Quand il a conduit les captifs dans les hauteurs, il les a conduits dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire il est passé du mauvais côté du séjour des morts dans les hauteurs. Dans le sein d'Abraham. Et cet endroit, c'est pas le paradis. Dans le sein d'Abraham, vous voyez pas Dieu. Il est pas là. C'est après. Il faudra passer au trône blanc, au grand trône blanc pour le jugement. Et c'est là seulement que les gens devant le trône de Dieu verront Dieu. Et il y en a qui seront mis de côté pour la honte éternelle, puis d'autres de côté pour la vie éternelle. Mais dans le sein d'Abraham, ils voyaient pas Dieu. C'est un lieu d'attente. C'est pas le purgatoire. Mais c'est un lieu d'attente, ils attendent là, ils savent qu'ils vont ressusciter, c'est un lieu de repos. C'est pas encore le paradis, mais c'est pas là que se tient le Père. Donc quand il a emmené les captifs dans les hauteurs, dans le sein d'Abraham, il a pas vu le Père. Et après avoir fait entrer ces gens dans le sein d'Abraham, dans les hauteurs, Éphésiens 3, 8, voilà le texte, eh bien il est revenu sur la terre, où ça? Dans la tombe où il y avait son corps. Il est rentré dans son corps, et il s'est relevé, il est ressuscité, son corps est ressuscité, lui, son esprit n'est jamais mort, Dieu n'est jamais mort. Il s'est relevé avec son corps, c'est une résurrection dans le corps réel, il est ressuscité. Et c'est dans cet état-là qu'il rencontre Marie dans le jardin. Et vous savez que là, il lui dit, ne me touche pas. Pourquoi? Parce que la loi juive interdisait qu'on touche un mort. Vous trouvez ça dans Nombre 19, 11. C'est interdit. Mais, vous allez me dire, mais il n'était pas mort puisqu'il était ressuscité. Oui, il était ressuscité. Mais quelque chose de nouveau est en train de se passer, quelque chose qui n'était jamais arrivé. Il fallait que ce corps soit présenté au Père pour avoir la purification des souillures de la mort qu'il venait de connaître. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi il dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté au Père. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Sur l'ordre express de Jésus, elle court vers les hommes qui étaient cachés dans une convention pastorale, bien cachée. Et Marie, cette femme, est allée prêcher l'évangile à des hommes, aux disciples, hein, et pendant ce temps-là, pendant qu'elle prêchait, pendant qu'elle témoignait, pendant qu'elle racontait, pendant ce temps-là, Jésus est monté au Père, et son corps a été purifié. Pendant ce temps-là, Marie expliquait aux apôtres, Thomas y doutait Thomas. Alors, Jésus est redescendu sur la terre avec son corps purifié par Dieu, puisqu'il est monté au Père, le Père a purifié son corps. Et comme Thomas doutait, ils avaient vraiment la trouille, ils avaient fermé toutes les fenêtres, toutes les portes. C'était pas possible, ils étaient là, en dedans, ils devaient être tous morts de trouille. Bien, c'est normal, parce que bon, ils se sont dit, bon, maintenant, ils ont condamné à mort Jésus, on est les copains d'un condamné à mort, ils risquent de nous condamner à mort aussi, donc faut comprendre aussi, hein. Donc, ils s'étaient bien enfermés à clé, et avec son corps purifié, Jésus passe à travers les murs de cette maison, il entre là, il se tient devant Thomas, et lui dit, touche-moi. Ah, on peut le toucher maintenant. Vous voyez qu'il est monté au Père entre le tombeau et Thomas. Il est monté au Père, sinon il n'aurait pas pu dire « touche-moi ». Quelque chose s'est passé. Il est monté au Père entre ces deux moments. Et Thomas tombe à genoux, il dit « mon Seigneur et mon Dieu ». Il reconnaît. Et je vous recommande mon livre qui s'appelle « L'Évangile de Thomas » qui n'est pas connu dans le monde chrétien, et surtout dans le monde chrétien évangélique. Je vous recommande ce bouquin. C'est vraiment magnifique. Il y a 114 paroles de Jésus, j'en fais les commentaires, que Dieu vous bénisse, je ne vous fais pas de la publicité pour de l'argent, parce qu'il est gratuit. Simplement, vous payez le port, je crois que c'est 6 euros, je crois que c'est ça. Donc Thomas tombe à genoux, dit « Mon Seigneur, mon Dieu, Thomas ». Beaucoup de gens disent « Ah, je suis comme Thomas, je doute ». Hé, Thomas, il n'a pas douté tout le temps. Hein? Jésus-Christ est ressuscité et il est monté au Père. Il est resté plusieurs jours avec ses disciples. Et nous, mes frères et sœurs, nous, lorsque nous ressusciterons, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va lire 1 Thessaloniciens 4, c'est très intéressant. 1 Thessaloniciens 4, 13, 18. Moi, je me réjouis de vous le lire. Écoutez ça. 4, 13, 18. Nous ne voulons pas, c'est Paul qui écrit encore, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui s'amusent avec des lapins, des poules en chocolat. Parce qu'ils sont affligés après, hein? Quand ils perdent un des leurs, vous allez, ils sont défigurés. Hein? D'ailleurs, on dit une tête d'enterrement, hein? Ils sont défigurés parce qu'ils n'ont aucune espérance avec leur poule, leur lapin ou chocolat. Non, Paul ne dit pas les lapins, il dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire pour son retour, pour sa venue. Nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, virgule, nous les vivants, virgule, qui serons restés, virgule, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce qui est écrit. Premièrement, les chrétiens qui sont morts en Jésus-Christ, ma mère, Kisha frère, enfin bon, tous ces morts qui sont, ta sœur Annick, tous ces gens qui sont morts en étant des chrétiens. Premièrement, ils ressusciteront. Et ensuite, combien de temps après, la Bible ne le dit pas, elle dit juste ensuite, les vrais chrétiens qui seront à cette époque-là vivants sur la terre, nous serons tous ensemble, enlevé avec eux. C'est pas ça. Moi, j'ai toujours cru que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et partiront à la rencontre du Seigneur, puis ensuite, nous, on allait les rejoindre. Faux! C'est écrit. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous aurons peut-être un jour, nous aurons peut-être une semaine, en tout cas, il y aura du temps pour vivre et nous réjouir avec les morts en Christ ressuscités, mes frères et sœurs. Avant de partir dans l'enlèvement, combien de temps, je ne sais pas. Mais il y aura un moment, un temps, où nos morts vont nous revenir et nous vivrons un temps avec eux. Et ensuite, dit Paul, nous partirons tous ensemble, avec eux, main dans la main, avec eux, nous partirons. Alors, Paul nous laisse entendre qu'il y aura un premièrement et un deuxièmement. Quel bonheur si on avait le privilège de voir nos morts ressusciter avant de partir. Imaginez-vous, on est au château, on est là, on est tout tranquille, on est en train de boire le café. Tout d'un coup, il y a Potter qui se met à aboyer. Et on dit, il y a quelqu'un à la porte, qui c'est? Alors, il y a Dominique, gentil toujours, c'est lui qui va toujours. Il va pour ouvrir. Et qui est-ce qu'il voit à la porte? Ma maman! Notre sœur Madeleine, elle est là! Elle est ressuscitée! Est-ce que vous imaginez un peu la chose? Imaginez, Rachel est dans sa chambre, elle est en train de faire de l'ordre, et tout d'un coup, elle entend... Elle ouvre la porte et se trouve nez à nez avec Guy Chaffray, qui est ressuscité et qui vient la voir en premier. C'est évident qu'il va aller la voir en premier. Ils ont passé tellement d'années ensemble, il va pas aller voir les autres. Ils sont gentils les autres, mais c'est sa Rachel qui va venir voir en premier. Imaginez Annick, qui entre dans la cuisine où il y a notre frère qui est en train de mixer la soupe, où il y a notre frère Francis qui est en train de mixer la soupe, et il y a Annick qui rentre, et puis elle sait qu'il est émotif, alors elle ne veut pas lui faire peur, elle lui fait « Coucou !» C'est moi. Imaginez, Paul semble nous dire que comme il y aura un premièrement et un deuxièmement, ça veut dire qu'il y aura donc un temps entre le premièrement et le deuxièmement. Un temps, combien de temps? Je ne sais pas. Je ne peux pas dire, la Bible ne dit pas. Mais il semble que Paul dit qu'il y aura un temps. Vous comprenez ma pensée, mes frères et sœurs? Mes frères et sœurs, en tout cas, le jour de l'enlèvement, la Bible nous dit que ne nous surprendra pas comme un voleur. On sera au courant. Ce jour-là, on sera au courant du jour. La Bible nous dit ça. Et je crois, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, que comme Noé a su que l'eau allait tomber 7 jours avant qu'elle ne tombe, Genèse 7, 10, nous aurons 7 jours entre le premièrement et le deuxièmement. Ça, c'est ma croyance personnelle. Je ne vous l'impose pas. Mais c'est ma croyance personnelle qui me réjouit aussi. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité et nous sommes les plus heureux des hommes. Parce que nous savons que non seulement lui, il est ressuscité, mais nos bien-aimés ressusciteront et nous ressusciterons aussi pour la vie éternelle. Amen et amen. Merci Jésus de nous ouvrir les yeux sur ces réalités. Moi je crois que ce sont des réalités. Des hommes et des femmes sont morts à cause de cela. Et je respecte leur souffrance, leur martyre. Et je sais que c'est vrai. Et je crois que c'est vrai parce que non seulement c'est écrit, mais je vis avec toi tous les jours. Toi, mon Christ ressuscité, qui me parle, qui m'instruit, qui fait ses miracles. Je te bénis mon Dieu pour cela. Et je te prie que mes frères et sœurs soient remplis de cette foi toute simple que tu es ressuscité et que nous sommes les plus heureux des hommes et des femmes. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Joyeuse Pâque. Dieu vous bénisse.